Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de l'émission Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Dans les débats du jour, une victoire et une place de dauphin pour l'OM. Les Marseillais ont remporté une courte mais jolie victoire hier à Nantes, ce qui leur permet de remonter sur le podium. Et le Brésilien Gerson a marqué. Est-ce le match du rebond pour cette équipe ? Les Lyonnais, eux, inquiètent après une nouvelle défaite et à domicile face aux Rémois du Stade de Reims. Qu'arrive-t-il donc à l'OL ? Et qu'arrive-t-il donc aux Parisiens ? En fait, avec feu d'artifice pour honorer leurs joueurs Messi et son ballon d'or Donnarumma pour son prix Léviachine, mais qui se contente d'un nul score vierge face à l'OGC Nice. Le Real Madrid prend le large, les Merengues s'installent en tête de la Liga grâce à un nouveau but de Karim Benzema, une équipe qui tourne bien. Carlo Ancelotti fait-il mieux que Zinedine Zidane ? Et justement, Zinedine Zidane, objet d'un livre autour d'un personnage, le titre exact c'est Zidane, roulette, tonsure et première étoile, même si sa photo en énorme avec la Coupe du Monde, la première n'est-ce pas, eh bien, donne le là de ce livre, un ouvrage donc publié par nos confrères de SoFoot. Il retrace le parcours d'un petit garçon aux cheveux longs qui n'avait Dieu que pour le ballon dans son quartier de Marseille, en passant par le joueur de Cannes jusqu'au Real, sa vie en bleu et puis son expérience de coach Zizou. À travers beaucoup de photos, des textes, vous serez tout sur Zizou, nous promet la jaquette de ce livre. Bonjour, Chérif Guémour.
Bonsoir Annie, bonsoir à tout le monde.
Vous nous présenterez cet ouvrage qui pèse peut-être autant que Zidane.
Les fêtes arrivent.
Sa réputation, oui, en plus. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Bah écoutez, à part que je suis un peu enroué depuis quelques jours.
Vous êtes victime du front ambiant.
Oui, un peu de Barry White, là. On va faire s'habituer.
Ça peut être beau, hein.
Oui.
Bonjour Dominique.
Bonsoir Annie. Zidanesque, hein, vous y compris. Ah. Donc je suis en admiration.
Vous n'avez pas pris froid hier au Parc des Princes ?
Non, moi j'ai froid depuis longtemps, vous savez Annie.
Vous m'expliquerez alors. Victor Hull est à la réalisation aujourd'hui et Sarah Lou Bakouche m'a aidé à préparer l'émission. Radio Foot, c'est parti.
C'est parti pour Dimitri Payet. Oh, je l'ai vu dedans. C'est bien Valentin Rongier, cette passe en profondeur pour Amine Harit. Ce centre, il y a Gerson dans la parade. Il y a Payet dans la surface de réparation, Dimitri, il est servi, il y a Gerson, la reprise. Elle est splendide, elle est magnifique, elle est signée, Gerson. Et c'est terminé, l'OM s'impose ici à Nantes.
La Dolce Vita sur RFI, et oui, pour saluer un bon match de l'Olympique de Marseille. Et voilà les Phocéens, dauphins du Paris Saint-Germain, ça rime. Une très bonne opération pour les Marseillais sur le fond, puisque la victoire permet donc de remonter sur le podium, alors qu'ils ont encore un match en moins, ces Marseillais. Pour l'instant, ils sont à 12 points du leader de la Ligue 1. Mais surtout, c'est sur la forme que l'OM a réalisé une bonne opération avec un beau match. Le retour du plaisir, souligne la Provence aujourd'hui, qui a revu l'OM de cet été durant les 60 premières minutes, ce qui a rendu heureux l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli.
Cela me remplit de joie de revoir cette version de l'OM. C'est la version qu'on aime, c'est la version que l'on construit, celle que l'on souhaite voir. On savait que ça allait être un match compliqué face à Nantes, sur un terrain difficile, contre une équipe agressive. Nantes n'est pas facile à jouer, pour personne. Donc face à une équipe aussi compétitive, jouer comme on a joué ce soir me rend très heureux. Et puis, on a vu exactement la version de Gerson que l'on souhaite voir, c'est-à-dire porté vers l'attaque, qui récupère les ballons. Il a été très actif. On a toujours pensé que c'est un joueur qui, s'il évolue à ce niveau, peut nous offrir de nombreuses choses. C'est pour ça qu'on avait parié sur lui. On espère qu'il pourra répéter à l'avenir des prestations comme celle-là.
actuaciones como estas.
Et claro, avec l'accent bien de Buenos Aires. Alors avant d'avenir à la fin de cette déclaration où il parle du buteur de la soirée, sur l'ensemble du match, cette victoire, Chérif Guémour, est-ce que vous la voyez vous aussi comme un rebond de l'OM? Peut-être ça décante, si je peux utiliser cette image.
Alors, un peu dans la forme, parce que sur pas mal d'occasions, en effet, on a retrouvé le Marseille qu'on avait un peu connu cet été et qui nous emballait tous, avant la grande panne avec cette série de matchs nuls et l'élimination en Coupe d'Europe. C'était une équipe... Il a tenté certaines choses, Sampaoli. On s'est rendu compte que, de toute façon, il faut... systématiquement que Payet soit là pour qu'il y ait l'étincelle créatrice. Alors, oui, ce qui était intéressant, c'est que, voilà, ouais. Il a tenté un truc avec Gerson, c'est que Gerson, c'est lui qui a plutôt joué en faux neuf, parce que bon, Payet est vite repassé en 10. Milik n'était pas là, donc on a tenté Gerson. Et on s'est rendu compte que Gerson, sur ce qu'on a vu, c'est un bon technicien. Alors, tout ce qu'on avait vu auparavant, il était incapable de faire une passe, il était incapable de se situer dans le jeu, il était incapable de briller. Enfin bon.
On va y venir sur Gerson.
Ça nous rappelle des trucs, ça. Hein,
alors après, évidemment, il y a une expulsion de Palois au bout d'une demi-heure de jeu.
Mais après le but.
Après le but.
Mais je pense que Yannick, votre question n'a pas de réponse, parce qu'il faut s'habituer avec Marseille à ce que ça soit si.
Des hauts et des bas.
Ouais, sinusoïdal. Ouais.
Merci, Franck.
Je t'en prie.
Bon, être enroué.
Après décantation.
Mais là, il y a deux victoires. Il y a deux victoires d'affilée.
Oui, parce que celle contre 3, déjà, elle était poussive. Ouais, elle était extrêmement laborieuse.
C'est seulement 1-0.
En fait, avec le jeu demandé par, j'allais dire Bielsa, par Sampaoli, cette exigence. Mais à la fois, ce côté un peu anarchique, c'est un peu, le style est un peu baroque, il n'y a pas vraiment de ligne conductrice, et ça va un peu dans tous les sens. C'est normal qu'ils aient ces très grands creux, notamment la Ligue Europa, où ils se sont fait éliminer, comme l'a dit Chérif. Et c'est normal qu'on voit des matchs comme ça, où le dimanche, ils vont être moins bien, mais ils vont gagner, ce qui est essentiel. Et ils vont être un peu mieux le mercredi, mais là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils rejouent, peut-être c'est dimanche ou samedi, ça sera peut-être un très mauvais match. Il faut s'habituer avec cet OM de Sampaoli à ce que ça soit comme ça toute la saison.
Mais
il faut qu'il digère
la
méthode. Voilà. Il faut qu'il digère la méthode. Faut qu'il
mais
comprenne.
On a l'impression que là, ça commence à la digérer.
Beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qu'il faut intégrer petit à petit. Hier, Harit était titulaire, il n'est pas tout le temps. Il y a beaucoup de turnover. On parlait de la présence de Payet. Payet, pas Payet, ça change le visage de l'OM. Il y a tellement de choses
paramètres, effectivement.
Voilà. Donc c'est pas, ça peut pas arriver.
La défense s'en souvent.
Voilà.
C'est pas une machine encore.
Non, ceci dit, et ça ne sera pas, à mon avis, avant la fin de saison. Ce qui fait qu'ils peuvent finir deuxième, comme sixième.
Ceci dit, sur le fond, ça n'a jamais été nul. Ça a pu être ennuyeux, mais il y avait quand même des occasions. Enfin, quand on regarde tout leur parcours en Europa League, on ne va pas parler de malchance, parce que ce n'est pas de malchance qu'il s'agit. Mais il y avait quand même un jeu porté vers l'avant. On essaie toujours de construire. C'est pas une équipe qui défend et qui ne propose rien. C'est pas ça du tout.
Défend mal, Chérif. Hein ? Elle défend mal quand même.
Oui, elle défend mal. Oui, elle défend parce qu'ils marquent pas. Au bout d'un moment, par rapport à ce que tu dis, par rapport aux efforts qu'ils font, si au bout d'un moment tu marques pas, tu vas reculer. C'est là qu'ils prennent des buts, ils se sont fait surprendre. C'est toute la série des matchs nuls. De toute façon, il n'y a pas de défaite, il y a pas de victoire, il y a que des matchs nuls. Donc, comme tu dis, il y a un truc qu'ils n'ont pas encore trouvé le fond de jeu, le truc.
Franck, comment vous voyez cette équipe de l'OM? De l'OM sans Paoli, parce que c'est quand même très marqué.
Un peu comme Dominique l'a décrite, c'est-à-dire une équipe qui a besoin de temps. C'est naturel, mais c'est une équipe qui est prometteuse. Après, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'effectivement, deux fois par semaine, ils offrent comme ça que ce soit Copacabana. Hein, c'est clairement... Et je vous dis Copacabana, ce n'est pas par hasard, parce que vous évoquiez Gerson et... On savait très bien.
De
moi,
Rio,
j'avais.
Exactement.
Oui, et je me souviens, on avait lu plein de trucs que vous avez tous écrit, là, les collègues, sur ce joueur. Son potentiel, le fait que ce soit un garçon qui s'inscrive comme ça dans l'avenir de l'OM.
Il a 24 ans, quand même, déjà. Hein.
24 ans, c'est jeune pour quelqu'un qui a. C'est quoi? C'est un primo-arrivant en Europe. Hein.
Il n'a pas joué avant.
Donc voilà.
Directement. Oui.
Et du coup, on sait très, très bien, en France, on est habitué à voir des joueurs brésiliens qui arrivent comme ça au cœur de l'été et qui ont besoin de quelques temps pour, un, s'adapter au football du pays dans lequel ils arrivent, et deux, en plus, là, à une méthode, à une stratégie, etc., qui est très demandeuse.
Enfin, ils en ont un qu'on n'a jamais eu. Hein. Luis Enrique, on l'a quasiment jamais
Mais lui,
vu.
Lui il y avait vachement de trucs sur...
Ouais, mais ceci dit, il connaît Sampaoli quand même, donc c'est lui qui l'a fait venir.
Mais ça ne suffit pas. Il y a tout un environnement à appréhender, je suis désolé. Bon, Annie, vous avez vécu là-bas, c'est quand même... C'est un autre monde, quand même, non? Et du coup... C'est pour ça que je pense que là, il commence effectivement à montrer des trucs. Ça a été bien décrit, d'ailleurs, par par shérif, quoi. Voilà, le type, on se posait des questions. Est-ce qu'il a été bien utilisé avant? Pas
non,
sûr.
Non, non,
pas
non,
sûr,
non,
tu
non,
vois.
Non, non, on le faisait jouer sur un côté alors que lui, c'est vraiment un joueur axial, voilà, qui vient participer au jeu. Là, là,
donc
on,
il a, quelque part, il l'a déstabilisé aussi. Au lieu de lui faciliter la tâche, il l'a mis dans le problème. Ouais. Et là, maintenant que tu le mets derrière, profitant de l'absence d'un joueur, on s'aperçoit que ce garçon, finalement, il a une palette beaucoup plus élargie qu'on ne l'imaginait.
C'est ça qu'on découvre. Et parce que nous, on ne le connaissait pas. Ouais. Et vraiment, sur ce qu'on a vu, mais
il faut insister. Il a fait des très
beaux gestes
hier.
Oui, c'est ça.
Son but, premièrement, qui est très beau, et puis à un moment, une passe pour Guendouzi.
Mais il était décrit comme ça,
Nice. Deux balles, alors qu'on n'a jamais vu ça. Il était complètement perdu sur le terrain.
Je l'ai vu à 3 lors du match contre Nice qui a été rejoué. Celui qui avait été annulé la première fois pour les jets de bouteilles sur Payet. Hein. C'est un petit peu la thématique de la saison, on jette des bouteilles sur Payet.
Et c'était sans Payet ce match-là en plus.
Voilà, et donc je l'avais vu, Gerson, il était passé complètement à côté. Tu vois ? Donc il faut faire attention.
Il n'est pas pourri non plus.
Apparemment, il était très perméable.
Ne nous emballons pas sur la culture de l'instant. Il a fait un bon match.
Bah, c'est pareil pour l'OM, ce que tu disais. Ça peut effectivement derrière finir deuxième d'un Paris Saint-Germain dont on peut imaginer qu'ils prennent encore plus de place. Mais ça peut aussi flancher parce qu'ils n'auront pas totalement digéré ce système.
En fait, il y a du talent devant Franck. Il y a Under, il y a Milik qui était pas
Moi, j'adore le Turc là, Under. Ouais, Under, c'est très, très
il y a Milik, il y a Payet, il y a une relation Payet-Milik qui existe déjà. Donc, il faut voir comment Gerson il peut s'en sortir.
Il y a aussi Bouba Camara quand même. Hein. Oui. Justement, dans la Provence aujourd'hui, on parle du Mino.
On a le jeune gay aussi qui est intéressant.
Du Mino qui a survolé les débats. Et c'est vrai que Bouba Camara, c'est pareil. C'est un des petits.
Ils veulent le garder. Ils ont du mal.
Oui, non, prolonger.
Pardon ?
Il ne veut pas prolonger ?
Oui,
bah oui, c'est ça. Oui, mais il y en a qui sont perdus quand même en ne voulant pas prolonger à Marseille, hein, on le sait. Donc bon,
c'est un peu la mode de vouloir être libre de son destin aussi dans le football.
Oui, mais ça ne marche pas toujours.
Bon, après, il y a eu les circonstances. En tout cas, les jets de bouteilles et tout ça.
En tout cas, Gerson, qui a coûté 22 millions d'euros au club, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il a montré qu'il pouvait. Après, ce qu'il continuera, on n'est pas sûr, mais voilà.
L'OM est éliminé de la Ligue Europa.
Voilà, t'es tranquille de ce point de vue.
Un match par semaine. Bon, la Coupe de France va arriver, mais. Bon, voilà, peut-être que ça sera l'homme de la deuxième partie de saison et qui va tout emporter et qui va s'installer. C'est ça, une saison, ça bascule avec des joueurs qu'on n'attendait pas, qui n'étaient pas titulaires à la première partie, parce que là, on était à la sixième journée. Donc, on arrive petit à petit.
Il va forcément prendre confiance après un match comme ça où il a étincelé.
C'est ce que notaient ceux qui étaient sur le bord du terrain en disant, pour la première fois, on l'a vu sortir souriant du terrain et pas l'air un peu abattu.
Il a besoin d'un déclic.
3-4 mois, c'est pas grand-chose. Radonjic, là, qu'ils ont vendu cet été, il est resté des mois et des mois sans marquer.
Mais Dominique Rahi, vous vous en souvenez, il avait mis un an.
Voilà, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Un Brésilien qui prend ça prend du temps. Et Rahi, c'était terrible.
Il y a un choc culturel pour les Sud-Américains. Bon, Marseille, il ne fait pas trop froid, mais il y a quand même des différences culturelles. Il y a des différences de championnat. Il y a des repères différents. Il faut s'installer. Il faut que la famille soit bien. Il faut que l'état d'esprit soit bien. Par exemple, Messi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je sais que sa famille n'est pas heureuse à Paris. Ça joue.
Ouais. Après, il y a un paramètre, c'est le test du
vélodrome. Ils aiment bien la Tour Eiffel,
pourtant. Ouais. Après, il y a un paramètre, c'est le test du vélodrome. Parce que là, il a marqué à Nantes, ok, d'accord. Mm-hmm. Là, maintenant, quand on vient à Marseille, on vient pour d'abord s'imposer au vélodrome.
Ça, quand on vient du Brésil, on n'a peut-être pas trop peur des tribunes.
Mais il aura besoin de ça, clairement, voilà, comme tout joueur venant à l'OM.
Soit on est adopté, soit on est rejeté. Et à Marseille, c'est
non, mais déjà, ils vont le fêter au prochain match à la maison, le fait que le gars, il est brillé.
Oui, mais
il
faut marquer.
Un peu plus. Ouais, mais enfin, c'est pas son poste initial.
Depuis Bernard Tapie, le vélodrome, c'est le test absolu. On va voir.
En tout cas, l'OM est à sa place, vous l'avez dit, ils peuvent terminer deuxième ou sixième. En tout cas, il y a eu quand même un concours de circonstances aussi.
Voilà, tout le monde a perdu. Merci Annie de le rappeler parce que Rennes était
défaillance de concurrent hier soir. Voilà, hier soir, Rennes a perdu face à Lille. Nice, on va en parler, c'était un match nul, donc un seul point. Et puis Lens aussi, qui n'a pas.
Qui patine, Lens.
C'est pas votre question, mais ma réponse, c'est que c'est plutôt Rennes que je vois Dauphin.
Ben moi, c'était la même chose, tu vois.
Malgré la défaite d'hier.
Mais j'aime bien votre réponse, Dominique.
mais c'était pas votre question. Mais malgré la défaite d'hier, je continue à croire en Rennes.
Ouais, puis ils ont un pouvoir offensif. Voilà, bon, hier, accident. Mais ce qui est intéressant avec l'OM, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une victoire qui peut être primée dans le sens ils ont ce match de retard.
Voilà.
ça leur permet effectivement peut-être de prendre un peu de distance quand
tu
ils
sais vont comment c'est, Franck, faut jamais le considérer dans le classement, faut pas qu'ils se disent
je l'entends régulièrement
parce que c'est le meilleur moyen
c'est pas gagné.
Mais en tout cas l'autre jour ils avaient rejoué alors qu'ils étaient en train de perdre, finalement ça avait été match nul et c'était pas si une si mauvaise opération pour un match à rejouer. En tout cas d'autres Olympiens étaient aussi en piste hier soir, alors eux c'est pas grâce à eux que l'OM est monté sur le podium, mais les Lyonnais qui comme les Marseillais d'ailleurs attendent toujours ce match en retard, enfin, qu'est-ce qui se passera? Une équipe lyonnaise, eh bien, en plus, à qui son public a dû beaucoup manquer, parce que justement, suite à ce qui s'était passé dans le stade le jour, eh bien, ils ont un huis clos à titre conservatoire. C'est-à-dire, pour l'instant, il peut y en avoir plusieurs, mais on a la réponse le 8, c'est ça, Dominique?
Oui,
hein.
Mais c'était grave ce qui s'était passé, donc c'était normal.
Oui. Mm-hmm. Donc, au moins un match à huis clos. L'OL s'est incliné dans les dernières secondes du match sur le score de 2-1. L'équipe n'a pas bien joué, et c'est ce qu'a reconnu le capitaine hier soir, Oussem Aouar.
C'est vrai qu'on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. On n'a pas su emballer le match, avoir plus de situations, plus d'occasions. Et même quand on les a eues, on n'a pas su les concrétiser. Donc je ne saurais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, on sait sur quoi il faut bosser. Et on se doit de le faire assez rapidement parce que malheureusement, le temps passe et puis on n'a toujours pas les points qu'on voudrait. La seule chance qu'on a cette année, c'est que devant, ça avance pas très vite. Donc il va falloir qu'on prenne les points. Bien sûr qu'on a fait des choses pas très bonnes ce soir. Quand c'est pas bon, on se le dit, mais il faut pas mettre le feu au lac, comme vous avez dit. Il va falloir qu'on reste solidaire.
Rester solidaire, est-ce que c'est être solidaire autour du coach Franck Simon? Parce qu'on l'entend, hein, il dit on sait sur quoi bosser. Alors c'est assez amusant quand on sait que.
Un petit jeu de mots.
Voilà.
Mais c'est
leur entraîneur s'appelle Peter Boss, Peter oui, Boss, je pense. Ouais. En tout cas, est-ce que l'entraîneur est en danger pour vous?
Oui. Oui, forcément, bah, surtout à l'OL. Hein. Quand en plus
quand arrive Noël,
ouais,
des
c'est,
fois
c'est pas la bonne
c'est
période.
C'est éjectable.
Ouais, c'est oui, mais voilà. Après, lui aussi est arrivé avec avec ses idées, avec sa méthodologie, tout ça. Et c'est, je crois que c'était dans l'équipe de ce matin où il disait voilà, clairement, ces résultats, ça passe combien de fois? Une fois par une fois tous les quatre matchs.
Une fois sur quatre.
C'est trop peu pour espérer respecter le tableau de marche et les ambitions nationales. Donc à un moment donné, il est naturellement, comme tout entraîneur, il est en danger. Et là, quand tu perds en plus contre des équipes qui sont...
Modestes, on peut le dire. Non.
Oui, modestes.
Non, c'est pas un cadeau.
Non.
Alors, sans leur manquer de respect. Oui,
non, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour ses joueurs. Là, Aouar, il
alors qu'il a
il
des
se cache
talents
pas,
quand
quoi.
Même.
Oui, non, mais lui, il se cache pas, Aouar.
Là aussi.
Il a envie de tu sens qu'il a envie de calmer le jeu, mais qu'en vérité... au niveau de l'équipe dirigeante, ça doit chauffer du côté de l'OL.
Justement, cet entraîneur, la méthode Boss fonctionne une fois sur quatre, écrivent donc, nos confrères de l'équipe. Mais on a regardé aussi, Sarah Loubacouche s'est penchée sur ses expériences précédentes. Et à chaque fois, quand même, pratiquement, elles ont été écourtées. C'est-à-dire avec le Vitesse Arnhem, c'est 19 points en 20 sur 21 en 2015. Après, en 2016, avec l'Ajax Amsterdam, c'est compliqué, même s'il a des bons résultats.
C'est le final,
2017, il est nommé entraîneur du Borussia Dortmund à la place de Tuchel et il ne tient pas.
Ouais. Au
Bayer Leverkusen, il est viré aussi.
Il a pour réputation d'être
rigide.
Rigide et têtu.
Alors, en fait, ça, c'est un peu un point commun.
Ouais, mais
au en Batav,
fait, il est pas, ouais, non, mais il l'est pas au départ, mais c'est le simple fait quand il se retrouve en difficulté, il se referme sur lui-même. Et c'est
en fait son vrai défaut. Quitte à aller au bout du truc, quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que lui, il a une vraie méthodologie, elle a fait ses preuves, on finit pas.
Mais où a-t-elle fait ses preuves?
Bah, l'Ajax, il fait quand même une finale d'Europa League contre Manchester United. Mais le truc, c'est à partir du moment où il est en difficulté, et malheureusement, bon, quand il est arrivé dans les clubs allemands, c'est pas non plus quand ils étaient à leur top. Donc à partir du moment où il y a des difficultés et des difficultés. Là, il s'est passé avec Lyon. Alors là, on parlait de dauphin naturel. Pour moi, le dauphin naturel du PSG cette année, quand on regarde les effectifs, c'était quand même Lyon. Quand on regarde le recrutement qu'ils ont fait, l'équipe type, devant, c'est quand même Paqueta, Aouar, Slimani, Toko Ekambi. Je ne cite pas les autres. En principe, ils ont pris Boateng, ligne par ligne. L'effectif est bon. Maintenant, non, il y a une méthode qui, visiblement, est très, très exigeante. Alors, bon, c'est très simple. C'est presser très haut et toujours être en mouvement. Bon, c'est un peu le jeu un peu hollandais. Bon, bref, mais c'est un jeu, comment dire, qui est très éprouvant et qui demande surtout une grande concentration tactique qu'ils n'ont
pas. Ça a
pas,
marché donc, sur la Ligue Europa.
Alors voilà, s'il n'y avait pas eu la Ligue Europa, je serais très inquiet pour Lyon. Or, non, en Ligue Europa, ils ont fini premier assez largement. Ils ont marqué tous les buts qu'ils n'arrivent pas à marquer en Ligue 1. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas encore entièrement inquiet parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait en Ligue Europa, maintenant, quand on regarde Lyon, quand il y a eu l'affaire de la bouteille, les résultats qui ne sont pas bons, l'annonce surprise du départ de Juninho, ça nous a tous pris de court, qui part à la fin de la saison. Le climat.
Ça reste à confirmer.
C'est plus que délétère,
quand même.
Je suis
tout à fait d'accord avec Chérif, notamment sur Dominique. Le recrutement. Shaqiri, je ne sais pas où il est.
Shaqiri, c'est pas top. Mais les autres.
Boateng, pour moi, ses affaires morales extrasportives où il est accusé par la justice allemande d'avoir frappé sa femme faisait déjà qu'il n'était pas possible de le recruter. Et si on l'apprend, le licencier sur le champ, parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un qui frappe des femmes dans son effectif.
Non, mais sur le terrain.
Sur le terrain, en plus, il se trouve que c'est plus un grand joueur. Si jamais on s'intéresse au foot dans ces moments-là, ils ont le meilleur joueur du championnat hors Star. Du PSG, c'est Paqueta.
L'effectif est quand même pas dégoûtant, non, quand même. Dominique. Tu laisses les recrues de côté. Il a cité les joueurs offensifs, notamment. Après, c'est pas que des recrues, quoi.
On parle pas de l'héritage, mais j'en ai parlé souvent avec ceux qui lui ont succédé dans les clubs successifs où il est passé. L'héritage de Rudy Garcia. J'en ai discuté avec plusieurs entraîneurs dans plusieurs clubs différents où Rudy Garcia est passé. Ils m'ont tous dit, alors peut-être qu'ils cherchent des excuses, mais ils m'ont tous dit que c'est un champ de ruines sur lequel ils ont dû rebâtir. Tous à Lille, au Mans. Là, on est à Lyon, il est parti Marseille. Il n'y a pas très longtemps, Marseille. En général, Rudy Garcia, il laisse un truc apocalyptique. Donc, je me demande.
C'est-à-dire, de quel point de vue une ambiance pourrie.
Divisé, clan dans le vestiaire, courant différent, club qui ne s'entend plus. Bon, là, qu'est-ce qui a été fait comme ménage? Pas grand-chose. Lui, il est parti. Juninho, comme le dit Chérif, nous a annoncé, comme ça, entre deux tasses de café ou de thé, qu'il s'en allait. On lui a rien demandé. On ne sait pas où est passé Jean-Michel Aulas. On ne le retrouve que sur des combats administratifs, il ne faut pas qu'on rejoute le match à huis clos, le reste, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas. Peter Bosch, ça dure...
Bose,
ça dure pas toujours longtemps, mais ça commence en général bien. Donc c'est là où c'est différent par rapport à d'habitude, c'est que là, ça commence qu'à un quart, alors que d'habitude, c'est plutôt... L'érosion, elle arrive la deuxième saison. Donc c'est un peu surprenant.
Quand on lui laisse la deuxième saison.
Toutes ces raisons-là, recrutement pas terrible, mais quand même meilleur joueur de championnat, Paqueta. Mais ils ont perdu le meilleur joueur de championnat de l'année dernière, encore une fois, hors PSG, Memphis Depay. Peut-être qu'ils vont quand même réussir à s'en sortir.
Eh bien, c'est ce qu'on verra sur ces prochaines journées de championnat. Alors, ça n'avance pas beaucoup devant, disait tout à l'heure Aouar, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore effectivement en perdition. Sauf le PSG quand même, hein, malgré des petits faux pas.
Une défaite et
deux matchs nuls. Le deuxième, c'était hier soir. L'équipe est largement en tête, 41 points, 12 de plus, donc, comme je le disais, que l'OM. Et hier soir, hein, même si le score est resté nul et vierge, eh bien, tout avait commencer en grande pompe.
Félicitations Gilles pour ce trophée qui fait de toi le meilleur gardien du monde.
Il a reçu au Théâtre du Châtelet son 7e ballon d'or. Mesdames et messieurs, votre numéro 30, Léo.
Alors la fête avant, parce qu'après, les têtes n'étaient pas forcément ravies en quittant la pelouse. Celui qui était plutôt content, satisfait du point ramené sur la Côte d'Azur, eh bien, c'était Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice.
Je pense que le match nul est mérité. Ils ont eu des situations, on en a eu, on n'a pas eu cette réussite. Mais le fait de ne pas concéder de but face à Paris était quand même une grande performance. Je ne veux pas qu'on dise qu'on a joué un petit Paris, on a joué un très bon Paris. Mais je le répète encore une fois, un PSG qui enchaîne les matchs, il y avait des absents de marque. Quand vous n'avez pas Neymar, évidemment, il vaut mieux jouer le PSG sans Neymar, hein, ça c'est sûr. Sans Marco Verratti, même quand il est rentré, on voit tout ce qu'il peut apporter. Nous, c'est une réelle performance. On est la première équipe à faire match nul ici, à ne pas concéder de but. Évidemment que c'est une performance qu'il faut apprécier quand même à sa juste valeur. Oui.
Plus une performance des Niçois et notamment de la défense niçoise qu'on a vu, que des Parisiens.
Oui, Dominique. Ils ont été courageux après leur défaite contre Metz à domicile, aussi défaite surprise. Je pense qu'ils se sont dit qu'il fallait d'abord bien défendre à Paris.
Oui.
Ils sont tombés sur un Paris, médiocre, nul, absent.
Ordinaire.
Bon, ils sont pas tombés sur le meilleur.
C'est un joli mot, ordinaire.
Ordinaire. Hein? Ouais, ordinaire, je trouve que c'est presque trop sympa.
ordinaire par rapport au côté extraordinaire quand tu as des extraterrestres.
Ouais, dans la norme, quoi. Pas hors norme, dans la norme. Ouais. Très décevant. C'est vrai qu'il y a que non trois victoires, vous les avez citées, Annie, contre Rennes, Marseille et donc Nice désormais. Mm-hmm. Mais ces trois non-victoires, une défaite et deux nuls, c'est donc contre le deuxième, le troisième et quatrième du championnat. Donc ça raconte un peu quelque chose quand même. C'est que ce PSG qui a pris une leçon de football il y a une semaine sur la pelouse de l'Etihad Stadium à City, qui a réussi un seul grand match dans sa saison pour l'instant, c'est justement la victoire au Parc contre Manchester City. Victoire contestable parce qu'elle est un peu heureuse, elle est un peu chanceuse, elle est un peu... Bon, mais victoire quand même.
En exagérant rien, c'était quand même...
Non, mais elle est méritée.
Non, c'était même un beau match.
Oui, c'était un beau match. Mais un beau match. Parce que, bon, voilà, ils auraient très bien pu faire match nul parce qu'il y a deux tirs sur la barre, mais bon, Donnarumma à la baraka ce jour-là. Mais bon, c'est quand même une victoire, bravo à eux. Mais en dehors de ce match-là, bah, quand tu ne gagnes pas contre le deuxième, le troisième, le quatrième championnat, que tu vas prendre une leçon de football à City, que tu n'as pas prouvé grand-chose, que tu as fait match nul à Bruges, des choses comme ça en Ligue des Champions, tu es qualifié mais dans la peau du deuxième, que tu n'arrives pas à battre Nice sans aucune créativité, que ton meilleur joueur ce jour-là, c'est Danilo Pereira hier soir, contre qui on n'a rien, mais ce n'est pas le joueur le plus technique du PSG. Ça veut dire que sans les deux créateurs du groupe, les deux playmakers que sont Neymar et Verratti, la lumière est éteinte. C'est très embêtant. C'est très embêtant d'avoir un effectif où il y a 40 personnes, mais il n'y a que deux joueurs qui font jouer les autres. Et quand même, il reste quand même un peu de talent avec des gens comme Messi, Kylian Mbappé, Di Maria, et on ne le voit pas. Ça m'ennuie.
L'entraîneur Mauricio Pochettino, on va l'écouter parce que lui, il était plutôt satisfait. Il trouve que son équipe progresse.
Toujours content, lui.
Je pense que notre équipe a été meilleure que l'adversaire. Nous nous sommes créés des occasions. Nous n'avons pas marqué et c'est dommage de ne pas gagner car je pense que nous méritons les trois points. Mais ça fait partie du football, cela peut arriver pendant une saison. Nous jouons comme nous le pouvons, avec les outils que nous avons en ce moment. Je suis satisfait de l'évolution, on s'améliore petit à petit. Nous sommes premiers en Ligue 1, qualifiés en Ligue des Champions et nous continuons à travailler pour être prêts pour les moments importants qui vont arriver.
Franck Simon, vous qui êtes notre consultant résident à quelques encablures du Camp des Loges, vous de Saint-Germain, pas de Paris, mais de Saint-Germain, est-ce que vous pourriez prendre la défense de cet effectif et
jamais,
être dans la ligne
jamais.
De
sur
Pochettino
le match, et surtout pas sur le match d'hier. Hein, franchement, je ne vois pas en quoi ils ont été meilleurs que les Niçois. Il y a eu tout un tas de, vous voyez, dans le jeu, enfin c'était poussif,
inabouti à chaque fois,
des oublis, on le voyait bien dans la toute fin de la rencontre où t'as quand même un Mbappé qui est là, qui sur le côté qui attend qu'une chose, hein, qu'on lui donne le ballon parce qu'il a envie d'aller entre guillemets se faire la défense niçoise, et lui pour le coup était motivé, il avait envie.
Il a toujours envie quand même Mbappé par rapport à tout le monde.
La semaine n'avait pas forcément bien commencé pour lui. Il tirait la gueule au théâtre du Châtelet, on peut le comprendre. Et du coup, hier, il a essayé. Quand on lui a donné un peu le ballon, ça n'a pas fonctionné. Je me disais, mais c'est pas une classe, c'est 100 classes d'écart entre lui et certains dans cette équipe. Hein. On fait rentrer Icardi, il est même pas capable de tendre la jambe pour venir couper le centre. Parce que tu sais, Dominique, toi tu les vois jouer tout le temps. Moi je les vois jouer une fois sur deux. Tu sais qu'à un moment donné, Mbappé, il va, même s'il n'a pas été bon dans la rencontre globalement, tu sais qu'il va donner ce ballon, un ballon de but, une solution. Mais si on ne l'a pas vu, hein, il a trottiné, il a fait deux,
trois... Il était encore au Châtelet.
Il était encore au théâtre du Châtelet, voilà. Et du coup, c'est une déception. Collectivement, c'est une déception.
C'est hallucinant qu'une équipe de ce standing n'arrive pas à mettre un but contre Nice. Je ne dis pas qu'elle gagne, mais qu'elle ne mette pas un but contre Nice. Que vous me dites qu'on va réunir Messi, Mbappé, Di Maria.
Mais Dominique.
Et qu'on ne va pas mettre un but à Nice.
On ne va pas leur trouver des excuses non plus.
Todibo, Dante, Benitez comme gardien, mais qui ne sont pas les plus grands défenseurs de l'Europe. Quoi.
Non,
je ne comprends pas. Mais je ne dis pas que gagner, hein, encore une fois.
Mais au moins, mettre un but, ça n'aurait pas.
2-0-0 déjà, chez en 16 matchs de championnat.
Ah non, mais je suis d'accord.
Ça n'est jamais arrivé, hein, sur une première partie de saison au PSG.
Non, mais je suis d'accord.
La parole est à la défense.
PSG QSI.
Ouais, il y a la défense, si on peut dire. Non, mais le truc, c'est ce qu'il y avait de décevant dans ce match-là, c'est qu'on est retombé un peu dans le travers des autres années précédentes. Parce que cette année, on a un bon championnat. Avec des équipes qui jouent, on a un peu d'imagination, c'est porté vers l'offensive. Il y a encore beaucoup de buts hier. Sauf qu'hier, Il y a un PSG qui est pas en forme, qui est pas inspiré, bon d'accord.
Ça dure, hein, ça dure depuis un moment quand même là, tu vois.
Mais en face, Yanis qui propose rien, il les attend en défense. Il y a un type qui s'appelle Gouiri, on le fait pas jouer alors que c'est vraiment l'étincelle niçoise.
Là, donc, je suis d'accord. Là, je suis d'accord effectivement.
Ouais, mais au bout d'un moment, c'est aussi ça. Alors moi, si c'est Galtier qui se satisfait d'un 0-0 du point pris à Paris, et c'est bien, c'est un bon résultat, on va pas le dire. Mais ça me rappelle le discours d'il y a quelques années quand on déjoue à Paris. Attends, je finis. Excuse-moi. Galtier, je pense qu'avec un peu plus d'audace face à ce PSG, il y avait moyen de gagner.
Il en avait plus avec Lille, mais c'était un autre effectif. Donc il était courageux.
Non, mais la psychologie du match d'avant, que, quand t'as perdu à domicile contre Metz et que tu vas au parc, tu dis mais je vais pas. Si t'enchaînes deux défaites pour un club comme Nice qui a des ambitions de podium.
Dominique, au bout d'une mi-temps, tu te rends compte qu'il y a un coup à faire quand même. Tu fais rentrer Gouiri à la mi-temps tout de suite.
Il y avait déjà Delors qui avait tiré une tête sur Donnarumma.
Raison de plus.
Dolberg, raison de plus. En deuxième mi-temps, on trouve le poteau sur une autre tête.
Essaye de faire la différence.
Mais je suis d'accord avec toi qu'il y avait moyen de.
Ça manquait d'ambition. Voilà.
Plus d'ambition, tu peux gagner le match.
Et là, peut-être que.
Voilà, ça aurait été un grand coup.
Et voilà. Mais non, mais t'as Nice qui gagne. Et puis après, bon, t'as Paris qui se réveille ou pas. Je sais pas. Mais là, on aura peut-être eu un grand match. Mais une fois de plus, pour un bon match, il faut quand même être deux.
Dominique, vous savez qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à venir sauver le Paris Saint-Germain?
Écoutez, s'il est français, qu'il a gagné 3 Ligues des Champions, je suis preneur.
Non, c'est pas lui, c'est un autre Z. Il s'appelle Zlatan.
Ah oui.
Il vient de sortir un livre qui s'appelle, enfin, ça va paraître au mois de janvier en France, mais aujourd'hui en Italie, qui s'appelle Adrénaline, mes histoires inédites. Et là, il aurait proposé au Paris Saint-Germain, à Nasser hein, carrément, des directeurs sportifs pour remettre de l'ordre dans le club.
Alors, moi j'ai sorti un article cet été où j'ai écrit qu'il avait proposé ses services au Paris Saint-Germain, mais en tant que joueur. Bon, alors soit je me suis trompé, soit...
Alors lui, il dit en tant que directeur sportif.
Mais comme il y a aujourd'hui Leonardo qui est directeur sportif et qui est très proche de son agent Mino Raiola, je vois pas comment...
Il dit pas directeur sportif adjoint, mais bon, oui.
Et voilà, comme la place est prise et comme son agent est très proche de Leonardo, je vois pas comment Nasser aurait pu évincer Leonardo, donc je pense vraiment... qu'il nous raconte de la flûte et qu'il a appelé cet été le PSG pour
être joueur. D'ailleurs, il dit, si je ne renouvelle pas mon contrat avec Milan...
Pour finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Finalement, il a eu un an de plus à l'AC Milan, qui va peut-être se transformer encore en un an de plus l'année prochaine, on verra.
Mais c'était pour mettre de l'ordre, il dit, dans le vestiaire.
Là, il dit la vérité, parce qu'il a été extrêmement déçu par le non-professionnalisme de l'institution PSG.
Il y a 40 joueurs, aucun ne veut s'en aller, même s'il ne joue pas, car on reste, car on est trop bien au PSG.
Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai, mais je pense que ce qu'il dit...
C'est la mode Zlatan.
Oui, et puis c'est un peu en service commandé de Mino Raiola, encore une fois, parce qu'il a dit dans une interview hier qu'il y avait deux gardiens au PSG, mais qu'il n'y en avait qu'un seul qui était bon, c'était Donnarumma. Comme par hasard, Donnarumma, son agent, c'est Mino Raiola.
Bien sûr.
Alors on a compris.
C'est pas non, je t'ai plus.
Mais c'est vrai.
Un petit crochet avant de parler d'un autre ZZZ même. Faisons un crochet par Madrid.
La pelota por fuera para Vini Junior. Mete buena diagonal. Oh, qué devolución exquisita. Tocó Vini Junior. Este es Asensio. Lo que sacó Unai Simón. Modric. Se enojó Benzema. ¡Gol! Y arriba cambia el resultado, gana el Madrid, gana el líder.
Et Karim Benzema a marqué, meilleur buteur hein, de la Liga avec 12 buts en 14 matchs. Le Français salue à Bernabeu comme s'il avait marqué un ballon, comme s'il avait gagné un ballon d'or. Mais il a pas eu les feux d'artifice, Dominique. Il a contribué à cette victoire. C'était un match en retard hein, du Real Madrid. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Eh bien, les Merengues, ils ont ajouté 3 points pour ce match en retard. Ils ont pris le large. Ils ont 7 points d'avance devant l'Atlético, qui est une équipe qui a aussi un match en retard. Et ils sont devant la Real Sociedad, devant le 13 points devant le Barça.
C'est pas engageant tout ça.
Qui est 7e. Voilà. La première place est-elle due à une équipe du Real trop forte? Et pensons que Vinicius est le deuxième meilleur buteur de cette Liga avec 9 buts en 15 matchs. Ou alors est-ce que c'est les autres qui sont faibles, un peu comme hier, là, ceux qui ont manqué de chance en Ligue 1? Eh bien, on va écouter Mister Carlo Ancelotti qui parle du mérite de son groupe.
Le Real Madrid est un groupe de joueurs qui ont tous un fort caractère et un énorme engagement. Ce n'est pas par chance que nous avons gagné nos 7 derniers matchs. Parfois, nous ne pouvons pas mettre en avant nos atouts, mais nous avons d'autres qualités. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Face à Bilbao, j'ai aimé la fin, plus que la première période. Avant la mi-temps, il n'y avait pas d'intensité. Nous n'avons pas réussi à saisir les opportunités. C'était bien, mais il manquait quelque chose. À la fin, nous n'étions pas parfaits, mais nous étions engagés et nous nous sommes très bien battus.
C'est une équipe très forte cette saison, Cheikh Gamour.
C'est un Real Madrid crépusculaire, avec beaucoup, beaucoup de trentenaires et plus que trentenaires. Ça tient encore parce qu'il y a encore du talent individuel, il y a encore... Puis après, il y a comment ça s'appelle un peu de sang neuf avec Vinicius. Mais
Camavinga.
C'est pas un bon signe que ce Real-là, il domine autant la Liga. Mais pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Atlético est affligeant. Il suffit de les regarder la
Ils
semaine
ont
dernière
du mal, hein, à se retrouver.
Contre Milan. Mais c'est en dessous de tout. Le FC Séville, on l'a dit, on le redit, c'est pas le FC Séville qu'on a connu ces dernières saisons. Le Barça
Sociedad
est en transition. Donc voilà, donc il y a la Real Sociedad, comme l'année dernière, qui pointe un peu le bout de son nez. Même si c'est une bonne équipe, on n'a pas une grande Liga. Et finalement, l'équipe qui est restée la plus stable au niveau de l'équipe type, c'est le Real. Donc, c'est à la fois logique et à la fois inquiétant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire une bonne saison ou quoi que ce soit. Mais c'est un peu affligeant.
Franck, est-ce que pour vous, cette équipe, qui est donc un effectif plus que stable ces derniers temps, est-ce que cette équipe est plus forte avec Carlo Ancelotti qu'avec Zidane? Ou est-ce qu'il a hérité aussi? Parce que finalement, il y a un relais. On avait Ancelotti et Zidane ensemble. Après, on a eu Zidane et maintenant, on a Ancelotti pratiquement, avec quelques entraîneurs qui ont été virés entre-temps.
On a vu d'ici plutôt le sentiment qu'il gère bien justement cet héritage. Il le gère. Et il le gère avec des résultats, il le gère avec des séries intéressantes. Alors à défaut de séduire, ça gagne. Et ça profite effectivement de la faiblesse de l'adversité derrière ou des creux de l'adversité. Donc ils avancent à leur rythme, ils prennent leur distance. Il leur reste quand même des joueurs d'expérience que les autres sans doute lui envient parce que l'effectif, ce que tu disais, c'est un effectif.
Modric, Casemiro, Kroos, moi j'adore.
C'est ça.
On a oublié aussi... Courtois leur sauve souvent la mise. Ça va pas marcher.
Mais il était contre l'Athletic Club
quand même, parce que Bilbao, c'est pas non plus l'équipe facile à battre.
Ils sont septième.
Oui.
Ouais, c'est dommage. Je sais pas ce que t'en penses, Dominique, mais tu l'as bien expliqué aussi, Chaïf. C'est une Liga qui est un.
Oui.
Ce n'est plus la Liga qu'on a connue.
Mais voilà, d'ailleurs, on voit les clubs espagnols en Ligue des Champions. Ils sont tous en ballotage défavorable.
Barcelone n'est pas sûr de se qualifier. Séville a perdu contre Lille.
Il ne reste que ce Real.
L'Atlético a perdu à domicile. Ils ont gagné à Rennes hier soir, mais bon, c'est pas un grand Lille. En fait, c'est les deux, Annie, par rapport à votre question. C'est à la fois un Real plutôt fort, même s'il a été beaucoup plus fort dans le passé, et une Liga qui s'affaiblit. Donc, comme le Real est un peu moins fort que les dernières années, mais quand même reste fort, parce qu'en plus, il est porté par, un joueur qui est extraordinaire. Et c'est ce qui fait, encore une fois, ce n'est pas votre question, mais je me permets d'y répondre, c'est ce qui fait que je leur ai mis devant les Lewandowski à titre personnel, parce que pour moi, il tire un Barça, un Real qui est beaucoup moins fort que ce que Lewandowski a avec lui au Bayern.
Ouais, donc, pour moi, c'est pas que de cette saison.
Pour
en
moi,
plus,
ce qu'il fait est plus fort.
Tu parles de
Vinicius, là?
Non, je parle, c'est ce que fait Benzema, c'est plus fort.
Mais dis-le.
C'est plus fort que ce que Karim Benzema fait au Real que ce que fait Lewandowski au Bayern, où il y a des pépés flingueurs partout, des communs, des joueurs extraordinaires.
Il n'est pas d'accord,
il a un joueur hors norme, et donc, parce qu'il est meilleur buteur championnat, mais il est aussi meilleur passeur. Fantastique, il est extraordinaire parce que condamnation, mmh. jugement, appel, ballon d'or, pas ballon d'or.
Et son retour en équipe de France.
Il marque tout le temps.
Et son retour
en équipe de France, il est prodigieux, il rend meilleur les autres. C'est une année très. Sans tropisme franco-français, c'est une année très Karim Benzema.
Enfin, tu le découvres pas d'aujourd'hui.
C'est étonnant. L'autre facteur de la réussite, c'est Carlo Ancelotti, qui est moins connu que Klopp et que Guardiola, parce qu'il a pas de logiciel, Mais Ancelotti, c'est un monstre sur un banc. C'est un monstre. Alors lui, il a l'école des pragmatiques à la Didier Deschamps, donc il s'adapte un peu. Lui, il a mis le sapin de Noël.
Mais
il pourrait. Il est pas obligé de mettre le sapin de Noël. Il met un
4-4-2. On parlait du sapin de Noël.
Voilà. Et donc c'est un pragmatique. Alors, comme il n'est pas dogmatique, il a peut-être moins de succès que les autres. Mais c'est un génie. Moi, je vous dis qu'Ancelotti, c'est un génie.
On y reviendra donc à ce Real Madrid. Vous parliez de sapin de Noël. Ça me rappelle que le PSG, quand même, était champion d'automne hier soir. Sacré champion d'automne.
Pas encore.
C'est ça, pas c'est encore. Je crois que c'était la fin des matchs allés.
Non, c'est dans trois journées. Mais, d'accord, mais c'est pas mathématique.
Ah oui, non, mais ils le sont déjà mathématiquement, pardon. Voilà, c'est ça. Bon, on n'en a pas parlé, mais on en reparlera donc.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que le champion de l'automne soit champion en automne. Et comme c'est pas encore l'hiver, je suis content.
C'est dans les clous, effectivement, à deux semaines près, trois semaines.
Deux semaines de Noël et de l'hiver. Allez, on continue parce que là, on a un monument qui nous attend.
On est rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
Et but Zidane, deuxième but de Zidane.
Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane.
Later that day, a star was born.
Vous êtes un des plus grands ballons d'or de toute l'histoire de France Football. Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre ce soir. Vous l'avez mérité très très largement. Bravo.
Le pénalty, le face-à-face entre Zidane et Gianluigi Buffon. Deux pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans?
Elle n'est pas dedans. Oui, elle est dedans.
Oui, elle est dedans. Zinedine, pas ça.
Pas du tout avec
pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Ce soir, c'est un moment historique. Gagner 3 d'affilée, c'est un truc de fou. C'est fantastique.
Arrive, arrive, mister. Zinedine.
Muchas gracias de corazón a todos vosotros. Muchas gracias. Ciao, ciao.
Zinedine Zidane, un énorme livre donc, sûrement à la hauteur hein, de son talent et en tout cas il le mérite ce joueur. Ce livre qui retrace comme jamais le parcours du fils d'immigré devenu le plus grand joueur entraîneur de l'histoire du football mondial, écrivez-vous. Alors c'est amusant, il y a 31 adjectifs sur cette jaquette pour évoquer Zinedine Zidane qui préfère se taire plutôt que de se définir. Chef Guémour, lequel de ces... De ces adjectifs, préférez-vous ?
J'ai pas d'adjectif, j'ai plutôt un statut, sans mauvais jeu de mots, c'est la statue du commandeur du football français. Il est dans toutes les grandes réussites sur le banc et sur le terrain. Alors on va me dire Didier Deschamps. Didier Deschamps n'a pas fait gagner la Coupe du Monde 98 et c'est pas lui qui a gagné la Ligue des Champions avec la Juventus. Ou Marseille. Par contre, Zidane, quand il joue la Coupe du Monde, c'est lui qui offre la Coupe du Monde à la France et c'est lui qui offre la Ligue des Champions au Real parce qu'il marque un but et il marque un but extraordinaire. Donc, et on l'attendait un petit peu sur le banc parce qu'on savait.
Beaucoup même.
Et bingo, trois Ligues des Champions d'affilée. Et donc, c'est exceptionnel. C'est pour ça que je parle de statut du commandeur du football français. Alors, et évidemment, tout le monde l'attend pour la suite en équipe de France, évidemment.
Voilà, on va y venir. Mais en tout cas,
c'est tracé. Hein,
c'est un très beau livre avec beaucoup de photos, des moments clés, évidemment. Alors, effectivement, on le voit tout petit dans les quartiers. La photo est même en noir et blanc. C'est amusant, les quartiers du nord de Marseille. Puis on voit, au fil du temps, s'élargir la tonsure. Parce qu'au début, il a beaucoup de cheveux quand il pose devant des affiches de films et tout ça, quand il rencontre sa femme. Parce qu'il y a beaucoup de photos de vie de famille. Ouais. Et puis, on en vient à coach Jésus et même à tous les honneurs qu'il a pu recevoir. Le but de ce livre, finalement, c'est quoi ? C'est d'asseoir justement la statue du commandeur du foot français ?
C'est à la fois de traiter du joueur, de l'entraîneur et de l'homme. Comment, d'où il vient, qui il est. Il y a beaucoup de photos de sa famille. Alors, sa famille au sens large, c'est-à-dire son épouse, ses enfants, son père, sa mère, qui ont joué un rôle très important. C'est pour ça qu'il y a un long article. Bah, il se trouve que c'est moi qui l'ai fait parce qu'on est de culture commune, c'est la culture kabyle. D'où il vient ? Sa famille, les valeurs très très profondes d'humilité, de travail, de comment ça s'appelle, de se mettre au service. Ouais, ça c'est tout l'héritage familial, du père, et se mettre au service des autres, toujours se mettre au service des autres. On sait très bien qu'il aurait pu marquer beaucoup plus de buts et tout. Non, il s'est toujours entre guillemets sacrifié pour l'équipe, pour le collectif, et on a retrouvé ça aussi avec son équipe du Real quand il est devenu entraîneur, quoi. mais vraiment sur l'homme, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente dans la société française. Toutes ces choses-là, quoi.
Dominique, Zinedine Zidane, c'est ce qu'il y a de fascinant, peut-être, c'est de réussir à effacer ce dernier geste qu'on n'oublie pas de sa carrière de joueur. C'est ce coup de boule, où il a eu des défenseurs, des chansons, tout ce qu'on veut. Mais quand même, malgré ce geste qui est son au revoir, et de continuer à être quelqu'un qui fascine et qui, en plus, est resté dans le monde du football et qui a de la réussite.
C'est un geste important, hein, ce coup de tête à Materazzi, mais... Pour moi, il reste quand même anecdotique par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que Zinedine Zidane, c'est une légende du football, au moins français, si ce n'est mondial. Le joueur, c'est une légende sur le banc, parce qu'il a aussi gagné la décima avec Ancelotti comme adjoint.
Exactement.
C'est énorme. Bah, ça lui coûte un ballon d'or, ce coup de tête, un deuxième.
Il en a perdu deux.
Il en a perdu deux sur des coups de tête, parce qu'il aurait pu. Donc, il a su le 98, mais il aurait pu gagner.
Il y a quand même des zones d'ombre là dans ce. C'est bien. C'est
14
bien,
cartons rouges dans sa carrière.
Ouais, c'est bien. C'est bien de le rappeler aussi. C'est bien de dire que c'est un grand bonhomme, mais c'est bien de rappeler qu'il y a des zones d'ombre aussi. Quoi.
On explique en plus.
De toute façon, tout le monde le sait. Donc, on peut pas le mettre sous le tapis.
Quand même, toi, les plus jeunes, tout le monde le sait. Nous autres, on le sait parce que on est tombé dans la marmite très jeune. Mais les plus jeunes qui risquent d'avoir cet ouvrage comme cadeau, ils savent pas forcément que Zinedine Zidane avait
ses zones d'ombre,
ses zones d'ombre, ses dérapages
pour un milieu offensif ou un attaquant, c'est quand même énorme. Patrick Vieira, quel même.
Je te dis pas le contraire, je te dis juste que les plus jeunes, cet ouvrage, il est aussi fait pour
Je vous rassure, ils en parlent dans le livre.
Tant mieux, tant mieux.
Il y a un chapitre.
Mais je ne sais plus quelle était votre question, Annie. Mais en tout cas,
non, mais d'avoir réussi.
Parce qu'en fait, oui, il a tellement. Moi, je me souviens, je collectionnais les images. Les autocollants. J'avais sa vignette à Cannes, il y avait marqué Yazid dessus parce que c'était son vrai prénom. C'est Yazid. Et d'ailleurs, comme ça que l'appelait Dugarry et Vicente Lizarazu en équipe de France.
Et ses parents surtout.
Voilà, ses parents. C'est son vrai prénom.
Et il est devenu Zizou.
C'est devenu une icône. il fait partie régulièrement du classement des Français préférés dans le classement du JDD parce que c'est une icône qui va traverser le temps. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est une légende.
Ouais, en ayant vécu toutes ces années loin de la mère patrie quand même.
Bon, il a fait Cannes et Bordeaux.
Oui, non, mais depuis. Il est parti depuis quand? C'est ça que je te dis. C'est que...
Il va revenir.
Oui, il doit revenir.
Au PSG.
Il doit revenir. Bon. Moi, j'en avais entendu parler parce que tu citais la Cannes. J'en avais entendu parler par un ami aujourd'hui. Il se parie qui était entraîneur et qui a donné un coup de main à la Cannes au milieu des années 90, qui me parlait de lui et qui me disait qu'il y a un jeune d'origine algérienne que les Algériens, justement, essayaient de convaincre, puisque la fédération algérienne était...
C'est une légende.
C'est une légende, ça. Lui, pourtant, était là, il m'a dit, il avait été approché par des émissaires, mais il n'était pas du tout question qu'il aille... qui rejoignent l'Algérie.
En Algérie, ils avaient entendu parler, mais d'abord un petit peu tardivement. Mais sinon, le sélectionneur, parce qu'on a beaucoup reproché au sélectionneur de l'équipe d'Algérie de ne pas avoir cherché.
Ouais, de ne pas être allé le chercher.
Non, jamais. Il était
déjà...
Il jouait déjà dans les équipes,
dans les équipes de jeunes.
Avec Raymond Domenech notamment.
Mais il était déjà remarquable et remarqué avant même d'avoir commencé cette carrière professionnelle, quoi, parce qu'il avait déjà ce bagage fantastique.
Une petite question, malheureusement la dernière, Chérif, mais au sujet de, en ayant construit et vu ce livre, est-ce que vous croyez crédible que Zinedine Zidane puisse entraîner le Paris Saint-Germain? Quand on voit quand même son attachement à cette ville de Marseille, où par ailleurs certains disent qu'il n'aurait pas pu y jouer parce qu'il aurait été adulé ou touché ou gêné tout le temps dans les rues de Marseille.
À mon avis, le rendez-vous manqué de Zidane avec Marseille, c'est du temps où Tapie et Guettal, s'il paraît, s'étaient intéressés à lui. Ça ne s'est pas fait, donc à mon sens, ça ne se fera jamais. Mm-hmm. Parce que moi, je vous dis. Alors, à moins qu'il y ait vraiment des gros moyens mis à l'Olympique de Marseille. Mais non, Zidane est international. Si le projet parisien l'intéresse, il viendra à Paris. Il n'y a pas d'attachement particulier.
Le PSG-QSI.
PSG-QSI, éventuellement après. Mais de toute façon, non, il n'y a pas de...
Il y a les Bleus.
Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il devienne l'entraîneur du PSG.
Et ben voilà, ce très beau livre, donc, œuvre de SoFoot et auquel vous avez collaboré.
Oui, c'est une œuvre collective, tout à fait.
Oui.
C'est beau, en tout cas.
Chérif Guémour, très beau, aux éditions
la
Marabout.
La de couvre aussi, Les mains sur la tête, comme un symbole.
Oui, tout le symbole de ce match de 2006. Deux petits messages, vite fait. Envoyez-nous vos cartons pour demain, pour l'émission du Café des Sports. Et puis, votez pour ce sondage RFI sur la périodicité de la Coupe du Monde. Ça s'arrête demain soir. Merci à tous. Merci messieurs, à demain.
Cette année, le prix Nobel de la